Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Patrick Victor. Vous dirigez l'ONG Portes Ouvertes et on vous attend chaque année quand vous publiez votre index mondial de persécution des chrétiens. Ça semble bizarre finalement, on ne devrait pas avoir à faire cet entretien. Et pourtant, les chrétiens, c'est la communauté religieuse la plus persécutée dans le monde au 21e siècle. Vous publiez chaque année votre index mondial avec tous ces pays, ce classement des pays. Cette année, il y a un petit changement. À la limite, on n'a peut-être pas en parler pendant des heures parce que ça va surprendre personne. C'est l'Afghanistan qui arrive en tête. Au coin de la rue, on disait là, le pays où on persécute le plus les chrétiens, je pense que le grand public lui-même ne serait pas surpris.
Oui, effectivement. Donc, merci tout d'abord pour ce temps à votre antenne. Donc, en 2022, comme chaque année, nous publions l'index mondial de persécution des chrétiens. Et il y a eu effectivement un changement à la tête de cet index. Donc, c'est l'Afghanistan qui prend la première place devant la Corée du Nord, qui était à la première place de cet index depuis 20 années consécutives. Et donc, malgré le fait que la Corée du Nord a atteint son score de persécution, si j'ose dire cela, le plus élevé depuis 20 ans. Donc, il est à 96 points, alors que l'Afghanistan est à 98 points de persécution. Et la différence se trouve dans la violence en Afghanistan, après la prise de pouvoir des talibans en août dernier, des listes circulent avec des noms de chrétiens, mais aussi d'autres minorités religieuses qui ne sont pas acceptées par les talibans. Et donc, il y a un porte-à-porte qui se fait, il y a une espèce de chasse à l'homme pour essayer de débusquer les chrétiens ou les hindous, par exemple, et de leur demander de se convertir à l'islam ou alors ils sont tués sur place. Et donc cette violence fait que l'Afghanistan, malheureusement, est à la première place de cet index cette année.
Est-ce que l'on peut dire, en résumé, quand je vois tous les pays, on va faire quelques zooms, que c'est le communisme et l'islam qui sont les deux principaux ennemis de la chrétienté dans le monde ?
Bon, alors je dirais que tout d'abord, ce sont 360 millions de chrétiens qui aujourd'hui dans le monde sont fortement persécutés et discriminés pour leur foi chrétienne, pour leur croyance chrétienne. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Et la persécution prend différentes formes. La persécution a aussi différents moteurs. Alors aujourd'hui, si on prend l'index des 50 pays, donc ce classement qui fait un inventaire non seulement du degré de persécution, de l'intensité de la persécution, mais aussi de son étendue géographique, on s'aperçoit que c'est dans les pays où il y a un islamisme extrémiste qui persécute le plus de chrétiens. Ce sont 38 pays sur 50. À côté de cela, le deuxième moteur de la persécution, ce sont les pays qui ont qui étaient communistes et qui le sont encore aujourd'hui. Je pense à la Chine, au Laos, au Vietnam, à Cuba. Ce sont des États, la Corée du Nord évidemment, ce sont des États qui ont un passé communiste ou qui aujourd'hui encore ont un parti communiste qui est actif et qui essaye de limiter, de brider la religion, les chrétiens. Et dans le cas de la Chine, pour vous donner un chiffre, ce sont 21 000 églises qui ont été fermées de ces 6 dernières années. Et donc, on voit que ça, c'est le deuxième moteur de la persécution. Ensuite, il y a le crime organisé, comme dans certains pays d'Amérique latine, je pense à la Colombie. On peut aussi parler du Mexique, d'ailleurs. Et donc, ce sont des pays où les églises dérangent les cartels.
Les mafieux.
Les mafieux, les criminels, qui n'aiment pas le message de l'Église, qui, pour rappel, est un message d'amour, mais est aussi un message de changement et de transformation de la manière de vivre et surtout qui est contre le crime organisé.
Alors justement, il y a une nouvelle entrée à la dernière place, certes, hein, voilà, dans cet index de persécution des chrétiens. On va en parler de cette nouvelle entrée. Vous avez dit c'est l'islamisme radical, mais moi ce que je vois c'est que tous les pays musulmans sunnites sont dans l'index. Donc on peut dire qu'ils sont tous radicaux alors.
Bon,
j'ai essayé de chercher un pays musulman sunnite qui n'est pas dans l'index, il n'y en a pas, ils y sont tous.
Bon là il y a plusieurs facteurs, hein. Donc il y a donc au niveau de ces pays, il faut aussi comprendre qu'il y a parfois une persécution qui est organisée par l'État, et je pense notamment à l'Iran. Mais il y a aussi une persécution qui vient de la culture, qui vient de la famille, qui vient de la société, de la tribu. Hein. Au Moyen-Orient, la tribu joue un rôle important. Donc, imaginez une tribu importante qui représente une tribu, ça peut être 50 personnes, mais c'est généralement 300-400 personnes, ça peut être même beaucoup plus. Quelqu'un se convertit au christianisme. Eh bien, dans beaucoup de cas, nous observons des faits de persécution dans la mesure où ces personnes converties sont vues comme des traîtres, non seulement à la religion, à l'islam, mais aussi dans la société. Et souvent, ces personnes doivent s'enfuir, se cacher aussi, aller dans une autre ville, pour reconstruire leur vie, et le grand problème, c'est qu'ils sont totalement écartés de la tribu. Et ils perdent leurs droits, ils perdent aussi, par exemple, leur droit à l'héritage, ils peuvent avoir des problèmes à l'éducation, parce qu'ils ne peuvent plus, aller à l'école, donc ils deviennent un peu des parias. Donc ça, c'est une forme. L'autre forme, comme je disais, l'Iran. L'Iran n'aime pas les chrétiens convertis. On parle à nouveau des conversions, de la liberté de religion, de la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc, il y a beaucoup de prisonniers en Iran aujourd'hui, ce sont des convertis. Vous allez retrouver toutes les informations sur notre site web, mais il y a beaucoup d'exemples de convertis qui, avant de rentrer en prison, se filment et disent, par exemple, voilà, je m'appelle... Ahmed, j'ai 28 ans, je suis devenu chrétien il y a 2 ans, je fais aujourd'hui partie d'une église de maison et la police secrète est venue chez moi, m'a dit que c'était pas acceptable que je devienne chrétien, j'ai été jugé et maintenant je rentre en prison pour une période de 2 années. Il arrête la vidéo passe sur les réseaux sociaux. Et nous, évidemment, nous regardons ce genre de choses et nous analysons et ensuite nous publions. Et voilà, donc ça, c'est une forme de persécution qui est organisée par l'État. Donc, je crois qu'il faut bien séparer les deux choses. Alors, il y a un troisième
phénomène. Vous avez souvent posé cette question hein, sur cette séparation, pour que l'on comprenne bien. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a aussi
comme
un troisième...
Comme la Fédération de Russie qui y est, on ne peut pas dire que Vladimir Poutine va persécuter les chrétiens. Voilà, et pourtant, elle figure
non,
dans le classement.
D'ailleurs,
on est d'accord.
Oui. Voilà. D'ailleurs, la Fédération de Russie est sortie du classement des 50 pays,
oui.
Mais va se retrouver dans les 76 pays au global, qui est en fait un classement plus large, mais qui c'est un classement des pays où les chrétiens sont néanmoins fortement persécutés. Parce que nous avons une grille d'analyse, donc au-dessus de 81 points de persécution, nous parlons d'une persécution extrême. Au-dessus de 61%, c'est une persécution très forte. Au-dessus de 41 points, c'est une persécution forte. Et donc, la Fédération de Russie elle a 56 points de persécution.
Ouais.
Et donc, une persécution forte. Et là, effectivement, les persécutions, elles sont en Russie. Il faut pas imaginer que c'est au travers de toute la Fédération de Russie. C'est vraiment dans des endroits,
dans des États, oui, dans des zones très
dans
spécifiques,
des États,
dans des provinces,
et notamment dans des États où la religion n'est pas la religion chrétienne. Et donc là, les chrétiens sont à nouveau persécutés, discriminés, et on parle à nouveau des convertis. Donc on parle effectivement de la liberté de religion. Donc cette liberté de qui nous est très cher, hein, donc qui est indiqué à l'article 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui nous permet à chacun de choisir pour nous-mêmes ce en quoi nous voulons croire ou ne pas croire.
Votre explication est importante, elle permet aussi de ne pas faire d'amalgame hein, aussi, et puis de comprendre aussi pourquoi, par exemple, dans ce classement tout en bas et vient de rentrer Israël. Voilà. Parce que dans certains territoires, dans certaines zones, hein, voilà, il y a cette persécution.
Oui, c'est la surprise de cette année. Donc, à la 76e place se retrouve l'État d'Israël. Il faut savoir qu'en Israël, il y a 175 000 chrétiens, c'est notre estimation. Elle entre avec 41 points de persécution. Et donc, c'est le principal mécanisme de la persécution en Israël, c'est le nationalisme religieux. Et donc, il y a des chrétiens qui ont été discriminés, il y a une pression sur les chrétiens par les juifs radicaux. Et ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui s'est accru l'année dernière. C'était déjà présent auparavant, mais là, ça devient remarquable. Et donc, c'est pour cela que Israël se retrouve dans notre index.
J'aimerais que l'on fasse un zoom sur l'Inde, parce que l'Inde, vous promenez dans nos rues, vous discutez avec des braves gens. L'Inde, c'est le pacifisme. On tue pas les vaches, ils sont gentils. On accueille tout le monde et tout le monde s'embrasse. Et on met des bougies, c'est ça l'Inde, hein, dans l'imagerie bobo traditionnelle.
Oui, l'Inde, c'est effectivement un grand pays, c'est le pays continent, 1,4 milliard d'habitants, presque 70 millions de chrétiens, donc 5% de la population en Inde est chrétienne, et pourtant, les chrétiens, comme d'autres minorités religieuses, les musulmans notamment, sont ciblés par le nationalisme religieux, donc par l'hindouisme, mais aussi par l'État. En Inde, le parti qui gouverne le pays, c'est le BJP. Il est au gouvernement depuis de nombreuses années, 2004, et donc le BJP est un parti nationaliste qui a depuis de nombreuses années essaye de changer les mentalités, essaye à coup de propagande de dire à son peuple, au peuple indien, si vous n'êtes pas hindou, vous n'êtes pas un bon citoyen. Si vous n'êtes pas hindou, vous êtes un traître à la nation. Et donc, nous voulons que le pays soit nettoyé j'utilise le terme correct, nous voulons que notre pays soit nettoyé des minorités religieuses qui ne sont pas hindous. Et donc, cette propagande qui, aujourd'hui, s'est infiltrée un peu dans toutes les couches de la population, a pour effet que les chrétiens, les musulmans, sont attaqués parfois violemment, parfois physiquement, parfois avec des conséquences pour la vie, dans de nombreux États en Inde aujourd'hui. L'Inde est une démocratie. L'Inde donne le droit dans sa constitution à la liberté de religion. Et pourtant, 10 États en Inde, sur les 29 que compte le pays, ont adopté une loi anti-conversion. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ces 10 États sont tous gouvernés par le parti BJP, et ce qu'ils n'ont pas réussi à faire à un niveau national ou fédéral, ils l'ont fait au niveau des États. Et donc, ces lois anti-conversion permettent à amener au poste de police une personne qui parle de sa foi chrétienne dans la rue, par exemple. Permet de détruire une église qui dérange dans un village reculé, dans une zone rurale. Il faut comprendre que la persécution ne touche pas nécessairement tous les chrétiens en Inde. Donc, ceux qui sont le plus ciblés, ce sont les personnes qui vivent dans des endroits reculés. C'est parfois une famille qui est devenue chrétienne, qui s'est convertie dans un village de 300-400 personnes. Et donc, cette famille fait partie des traîtres du village et elle est ciblée par les villageois. Il y a aussi des milices et des militants radicaux hindouistes qui se déplacent en foule et qui vont attaquer des églises. Ils peuvent détruire, par exemple, des bâtiments. Ils interviennent parfois violemment, ils interrompent des cultes ou des réunions de prière. Nous avons beaucoup d'exemples, même des femmes qui sont battues. Je me souviens de cette jeune femme qui avait un bébé au bras. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont frappé les hommes, les femmes aussi. La femme du pasteur a dû rentrer à l'hôpital et cette autre femme avait un bébé au bras et elle s'est fait frapper avec des barres en bambou et le bébé est tombé par terre et elle a été blessée au bras. Heureusement, le bébé n'avait rien. Ils sont allés au poste de police pour se plaindre et finalement, ce sont ces gens-là qui ont été accusés de conversion forcée. Et donc, il y a vraiment un climat d'hostilité grandissante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la presse internationale fait référence à cela aussi en France. Et donc, c'est un pays que nous devons surveiller. Et nous demandons d'ailleurs au monde politique, ici en France, au niveau de l'Europe, mais aussi dans d'autres pays, que les diplomates interviennent auprès de leurs homologues indiens pour leur parler de ce problème de la violence qui grandit de plus en plus.
Je vous ai cité quelques pays. Avez-vous envie de nous faire partager la situation d'un pays spécifique, outre ceux que nous venons d'évoquer ?
Alors, le pays qui me vient à l'esprit, c'est le Nigeria. Au Nigeria, la violence, la persécution violente, elle est maximale, elle est à 100%. L'année dernière, 4650 chrétiens ont été tués par des djihadistes de Boko Haram, par des bergers peuls, par d'autres groupes djihadistes qui opèrent dans le nord du pays, mais qui aujourd'hui se dirigent vers la ceinture centrale. Le Nigeria, c'est un grand pays, 211 millions d'habitants, et 46% de la population est chrétienne. Et donc, il y a vraiment un mouvement de radicalisation des populations locales et il y a un désir de faire disparaître les chrétiens d'États, de régions qui sont aujourd'hui sous la tutelle de la charia. Et j'ai beaucoup de témoignages où la difficulté de vivre, elle est au quotidien. Lorsqu'un village se fait attaquer par Boko Haram, il arrive qu'on tue fréquemment les hommes et les enfants, surtout les garçons, qu'on enlève les filles, les femmes, qu'on les viole, qu'on les marie de force. Au mieux, elles peuvent s'échapper et elles se retrouvent comme réfugiées dans des camps plutôt vers le sud. Et là, il y a toute une communauté qui grandit dans ces camps de réfugiés. Ce sont des camps de chrétiens qui n'ont plus accès à l'eau, à la nourriture. Et donc, il y a beaucoup de drames humains qui se jouent dans ce pays aujourd'hui. Et là, à nouveau, nous devons vraiment, avec nos gouvernements, voir comment on peut changer les choses et faire un appel. Là, il y a vraiment... je tire une sonnette d'alarme pour ce pays où la violence et la persécution a vraiment franchi une zone rouge. Et nous devons absolument intervenir en tant que État pour que ce bain de sang s'arrête.
Justement, à nos politiques, je sais bien que vous ne faites pas de politique, hein, vous êtes une organisation, une ONG religieuse, la politique, ça ne vous concerne pas. Mais je me dois quand même de vous poser la question. Imaginons que je suis un candidat à l'élection présidentielle. Je suis un homme politique influent. Je vous téléphone et je vous dis, Patrick Victor, je veux marquer mon soutien à la cause des chrétiens dans le monde. Avec mon statut d'homme politique reconnu, dans quel pays dois-je me rendre pour signifier au gouvernement de ce pays que ça ne peut pas durer? Qu'est-ce que vous me répondez? De voyage me donnez-vous?
Alors, c'est intéressant comme question. Je dirais que, quel que soit le gouvernement et quel que soit l'homme ou la femme politique, tout d'abord, renseignez-vous, informez-vous et faites passer, ou en tout cas, pensez aux droits de l'homme lorsque vous négociez, lorsque vous parlez avec ces gouvernements. N'oubliez pas les droits de l'homme, n'oubliez pas la liberté de religion dans vos discussions. Elle est très importante parce que lorsque la liberté de religion est attaquée, ce sont d'autres droits humains qui sont aussi attaqués. Et nous parlons de droits fondamentaux. Et donc, je pense qu'il est important de s'informer. Alors, nous, ce que nous faisons en tant que mission ONG, nous adressons au monde politique et nous avons une réponse, une ouverture, une écoute. Et lorsque les politiques nous disent souvent, mais que pouvons-nous faire pour aider? Et là, nous avons de nombreux exemples où les politiques sont intervenus et grâce à leur action, des situations qui étaient difficiles ont pu se rétablir. Malheureusement, cela n'a pas changé une atmosphère générale, mais je connais des hommes et des femmes politiques qui, grâce à leur action, ont pu libérer des prisonniers. En octobre 2020, trois prisonniers dans un pays sur le continent africain ont été libérés grâce à l'action d'hommes et de femmes politiques ici en France. Et c'est vraiment remarquable. Je pense aussi au Parlement européen, grâce à leur action, il y a eu la libération, entre autres, d'Asia Bibi, qui était emprisonnée au Pakistan. Pas seulement le Parlement européen, mais le Parlement européen a aussi exercé une pression. Et donc, il est possible d'intervenir. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment connu que 360 millions de chrétiens sont persécutés et discriminés pour leur foi.
Quand je vous ai posé... Ah, vous ne m'avez pas répondu. Et je vais répondre à votre place. Et bien sûr, si je réponds à votre place, c'est sous votre contrôle. Hein. Évidemment, je ne suis que l'intervieweur. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Je vais vous citer trois pays, voilà, sur lesquels on a des relations très fortes. On passe notre temps à faire des courbettes avec ces pays et aucun message n'est envoyé à leur égard sur cette situation. Je pense très clairement à l'Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, par exemple, où Dubaï est très très à la mode en ce moment. Si vous n'avez pas fait une photo à Dubaï sur votre réseau social à 50 ans, c'est que vous avez raté votre vie. Hein. C'est à peu près ça. Vous êtes d'accord sur ces trois pays? Parce qu'ils sont proches, on fait beaucoup de business avec eux, c'est pour ça que je les cite.
Mais je vais peut-être vous surprendre, mais vous savez, il y a différentes actions politiques. Il y a les actions qui sont visibles, il y a les conférences de presse, ça c'est une chose, mais vous savez, il y a aussi une autre manière de travailler, c'est la diplomatie secrète. Et donc, en termes de diplomatie, beaucoup de choses peuvent changer. Et donc, voilà, je voudrais pas dire qu'il n'y ait pas de ce genre de travail qui se fait aujourd'hui. Et donc, je pense que nous devons aussi faire confiance lorsque cela fait du sens. Et voilà, notre action. Comme vous l'avez très bien dit, nous ne nous inscrivons pas dans la politique, nous ne faisons pas de politique, mais notre travail, c'est d'informer, c'est de donner des possibilités d'action au monde politique, aussi aux médias. Et donc, nous laissons ça à eux. C'est leur travail, finalement. Et bon, moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Et je voudrais remercier tous les hommes et toutes les femmes qui se sont engagés et qui veulent soutenir, de par leur action, les chrétiens persécutés dans le monde.
Est-ce que votre index ne gagnerait pas, Patrick Victor, peut-être en lisibilité sur le plan de l'efficacité politique, en distinguant les pays où la persécution émane réellement des lois qui sont votées, c'est-à-dire des gouvernements en place avec un propre classement, à part des autres pays, comme par exemple, je réfléchis, la Fédération de Russie, voilà, la Côte d'Ivoire, je regarde, la Fédération de Russie, Côte d'Ivoire, ça me vient, voilà, largement en tête, ou par exemple, où ces pays, voilà, où la persécution ne vient pas du président, je veux dire, du gouvernement qui fait des lois, qui vient des problèmes qu'il y a dans au sein de la population, voilà, de peuple, et avoir deux classements différents sur le plan de l'efficacité de la diplomatie, sur le plan politique, ou le Mexique, voilà, vous avez cité le Mexique, je mettrai aussi le Mexique peut-être à part, puisque là-bas au Mexique, comme vous l'avez dit, hein, ce sont des mafieux, ce sont des gangs, c'est des règlements de compte, on persécute... Je ne le mets pas sur le même plan que l'Arabie Saoudite, vous m'avez compris, ou l'Afghanistan.
Oui, j'entends ce que vous dites, et effectivement, c'est une bonne grille de lecture. Disons que nous prenons en compte les suggestions, les possibilités peut-être d'amélioration ou de clarté dans notre livre.
Mais il faut bien avoir une grille de lecture, ce n'est pas un reproche, oui, hein, que je vous fais.
Non, j'entends bien, je ne le prends pas du tout comme un reproche, mais si je prends par exemple, voilà, le Niger est à la 33e place, il était hors index l'année dernière, et donc il vient directement à la 33e place. Quels sont les principaux mécanismes de persécution? Il y a effectivement l'extrémisme islamique, mais il y a également les systèmes de corruption. Alors c'est vrai qu'au travers de cela, on ne peut pas dire si le Niger, par exemple, a une constitution pour ou contre les chrétiens.
Voilà, c'était le sens de ma question.
C'est ça, exactement. Mais vous savez, donc notre travail, c'est un travail d'information, un travail d'analyse et de collecte en ce qui concerne cet index mondial de persécution. Mais ça, c'est une partie de notre travail. Notre travail aussi, c'est d'aider les populations chrétiennes. Donc, nous avons un réseau de partenaires que nous entretenons depuis des dizaines et des dizaines d'années. Portes Ouvertes existe depuis 1955. Et vous pouvez vous imaginer facilement que nous avons pu établir des relations de confiance avec les personnes sur place. Et grâce à ces relations, nous pouvons aider les populations locales. Et donc, notre cœur de métier, c'est d'apporter une aide spirituelle, morale, humanitaire, légale aussi dans beaucoup de cas, pour permettre aux populations, par exemple, ne fût-ce que connaître leurs droits fondamentaux dans leur pays. Et donc, nous avons vraiment à cœur d'aider ces populations et de les aider aussi parfois à se réinsérer dans le circuit social et économique en donnant par exemple des formations, en passant par des cours d'alphabétisation, en aidant par exemple les femmes dans certains pays, comme la Syrie par exemple, il y a eu, les hommes ont disparu suite à la guerre. Et donc, les femmes se retrouvent seules, elles doivent se rétablir économiquement, moralement. Et donc, dans ce pays, par exemple, au travers de notre réseau de partenaires, nous aidons justement ces femmes à pouvoir rebondir. Nous les aidons aussi psychologiquement. Donc, voyez-vous, ça, c'est vraiment notre travail. Maintenant, si nous communiquons sur la Syrie ou sur le Niger, comme je le disais à l'instant, le travail du plaidoyer, le travail que nous soumettons aux instances internationales, donc c'est pas seulement en France, mais c'est aussi à Washington, c'est aussi à Genève, et mais aussi dans d'autres capitales européennes, à Londres, à Amsterdam, à Washington, même au niveau de la Maison Blanche. Et donc nous voilà, c'est dans les discussions que nous avons avec ces personnes qu'on peut aller plus loin dans la pour vraiment décortiquer là où nous pouvons avoir une action. Et il est vrai que une de ces choses, par exemple, de ces actions, c'est d'aider au travail, par exemple, d'écriture d'amendements à la Constitution. Mais ça, nous laissons cela à toutes les personnes qui sont dont c'est le travail. Oui, donc
parce que vous, votre métier, en résumé, hein, ce que vous faites à travers cet index, chaque fois qu'un chrétien est persécuté ou tué, vous mettez une croix, hein, grosso modo, dans un tableur. C'est à peu près ça. Voilà. Avec ce raisonnement, quand le père Hamel a été tué en France, a été égorgé, quand il y a eu les attentats du Bataclan, ce sont autant de croix qui remplissent une case France, finalement. Parce qu'il y a eu ces persécutions parce qu'ils étaient chrétiens.
Alors, la manière dont nous construisons cet index, nous analysons effectivement les cas de violence. Mais ce qui est particulier à notre index, et je pense que Porte Ouverte est la seule mission ONG qui publie chaque année un index mondial de persécution. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que nous analysons la persécution et la discrimination sous l'angle de la violence que nous allons extraire de la vie privée et de la vie publique, et ça représente un sixième des points. Les cinq sixièmes restants, c'est la vie publique et la vie privée. Premier point, la vie privée. Est-ce que j'ai même le droit de croire ou de ne pas croire? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une Bible? Est-ce que j'ai le droit de parler de ma foi? Donc ça, c'est la vie privée. Deuxième aspect, c'est la vie familiale. Est-ce que si je me convertis, est-ce que je risque d'être poursuivi, ciblé par ma famille. En Égypte, il arrive fréquemment que les chrétiens d'arrière-plan musulmans se fassent tuer par un membre de la famille s'ils sont découverts ou s'ils ne s'enfuient pas. Donc ça, c'est un. Là donc, nous sommes sur une deuxième sphère de la vie privée et publique. Troisième élément, la vie sociale. Quatrième élément, la vie civile. Est-ce qu'il y a des lois ou non, qui donne la liberté de religion. Cinquième élément, la vie ecclésiale. Donc la liberté de se réunir. Aujourd'hui, en Algérie, 16 églises ont été fermées par l'État algérien depuis 2017.
Au Maroc, c'est interdit. Sauf pour les touristes. Voilà.
Donc vous avez la violence qui représente un sixième des points. Vie privée, vie familiale, vie sociale, vie civile et ecclésiale représentent aussi chacune un sixième des points. Donc, on arrive à six sixièmes, et donc nous arrivons à un score sur 100 points. Donc, prenons la France. La France a eu ces massacres terribles en 2015. La France arriverait à un maximum de points dans la case de violence. D'accord ? Un sixième des points. Par contre, vie privée, vie familiale, sociale, civile et ecclésiale, vous allez avoir zéro point, pratiquement. Oui. Et donc la France ne peut pas rentrer dans cet index. Pourquoi ? Parce que nous analysons
tous ces l'oppression, paramètres, oui, oui.
La violence, la discrimination, donc nous analysons toutes les sphères de la vie. Pourquoi ? Parce que la persécution, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de complexe. Il y a des moteurs différents, il y a des formes de persécution qui sont différentes, et donc on ne peut pas tout uniformiser. Il faut avoir une grille de lecture, c'est un prisme, et on doit avoir une grille de lecture qui est juste, mais aussi une grille de lecture qui permet de bien informer tous ceux qui ont un intérêt pour ce sujet. Et donc, aujourd'hui, supposons que la France ou un autre pays européen dépassait les 41 points dont je parlais précédemment, il est sans doute possible que la France rentrerait dans cet index. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre
du
jour.
On en est loin, heureusement. Hein. Alors là, le jour où on rentrera, il faudra quand même se poser de sacrées questions, hein, Patrick Victor. Voilà. C'est passionnant, cet index, on le trouve via le site de l'association Portes Ouvertes. Voilà. Un travail qui est mené sur l'index mondial de persécution des chrétiens, avec cette année une entrée fracassante. L'Afghanistan, ça surprend personne, mais enfin presque à égalité avec la Corée du Nord, ensuite la Somalie, la Libye, le Yémen, Érythrée, Nigeria, Pakistan, Iran, Inde, Arabie Saoudite. Voilà les 11 pays au monde qui sont dans le rouge, qui persécutent le plus les chrétiens. Et vous avez bien expliqué qu'il y a beaucoup de pays qui figurent dans cet index, comme le Mexique, on l'a dit, la Fédération de Russie, hein, c'est la persécution au quotidien, dans la vie familiale, vie sociale. Ça peut être dans des endroits très spécifiques, hein, c'est pas dans le pays en son entier, dans des régions très particulières, ou dans des états très particuliers, où il y a une vie sociale, où il y a une majorité d'une autre religion, et qui persécute, au sens dans la vie familiale, vie professionnelle, les chrétiens, même si c'est pas dans la loi de l'État. Hein, voilà. Alors qu'il y a d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, où là, c'est carrément dans la loi de l'État. De toute façon, il n'y a pas de chrétiens en Arabie Saoudite, par définition. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, sauf les étrangers. Vous êtes d'accord avec ma conclusion? Ça vous va, Patrick Victor?
Oui, oui, c'est une bonne conclusion. Je dirais peut-être, pour compléter ce que vous dites, dans les pays où l'Église n'est pas visible, vous avez mentionné l'Arabie Saoudite, mais on peut mentionner d'autres pays comme la Corée du Nord. Il faut savoir qu'il y a des communautés chrétiennes secrètes.
Ouais. Et oui. Donc, c'est peut-être elles donc, qui ont le plus besoin d'être aidées. C'est peut-être elles qui ont le plus besoin.
Oui, elles ont besoin d'être aidées, mais peut-être, et ça c'est peut-être un peu à contre-courant, mais il faut savoir que ces églises secrètes vivent dans l'illégalité. Et pourtant, elles sont bien là. Et pourtant, elles nous enseignent quelque chose de très important. C'est que leur foi est tellement importante qu'ils sont prêts à prendre tous les risques, y compris la mort. Et donc, ça doit nous questionner, peut-être nous, aujourd'hui, chrétiens, dans le monde occidental, quelle valeur donnons-nous à notre foi ? Et je pense que dans ces pays, ils ont trouvé cette valeur.
C'est une belle conclusion. Merci Patrick Victor. Vous dirigez l'ONG Portes Ouvertes. Et on vient de parler de cet index mondial de persécution des chrétiens.